Une femme, mariée, avec des enfants, journaliste, à Rome depuis 4 ans, Isabelle de Golemin, qu'est-ce qui a changé dans votre façon de comprendre, de percevoir, d'aimer l'Église?
La première chose, je trouve, c'est la prise en compte de l'histoire. Parce qu'en fait, quand vous êtes à Rome, y a de l'histoire partout. Il y a derrière nous 20 siècles d'histoire. L'Église, elle n'est pas là par hasard. Il y a derrière elle une grande évolution. Et c'est cette histoire-là qui permet de comprendre l'Église aujourd'hui. Je crois que sinon, on ne comprend rien.
Et vous, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous avez envie, dans le milieu journalistique dans lequel vous allez retourner à Paris? Qu'est-ce que vous allez leur dire?
J'ai peut-être envie de dire que les choses ne sont pas simples. Ce qui m'a beaucoup frappée, notamment en suivant ce pape-là, c'est qu'on est, nous, journalistes, toujours tentés de caricaturer. On prend un titre, on y va, allez, ça y est, le pape est contre le préservatif. On résume, on voudrait que tout soit blanc ou que tout soit noir. Et je crois que ce que j'ai vraiment appris à Rome, c'est la nuance. Parce que justement, on a cette histoire complexe, parce qu'on a une Église qui est universelle. Je veux dire, c'est pas rien, 1 milliard d'hommes, c'est pas rien, donc c'est compliqué. Il faut qu'on arrête de voir les choses de notre petit point de vue. Et c'est vrai que, comme catholique française, je suis venue avec un certain nombre d'a priori, et il y a un paquet de ces a priori qui sont partis, finalement, en se frottant à cette complexité. Et je crois que, en fait, c'est devrait être le credo de tout journaliste, c'est-à-dire pouvoir montrer la nuance, pouvoir montrer ce qu'il y a derrière les choses, dire que les choses ne sont pas si simples que ça. Et c'est vrai qu'on est dans un système quand même médiatique, notamment par rapport aux phénomènes religieux, qui a tendance à caricaturer à l'extrême.
On dit de vous, Isabelle de Golemin, que vous êtes une journaliste documentée, compétente et en dehors des polémiques.
Ce que moi j'ai essayé de faire, c'est d'essayer d'aller à l'essentiel. Il y a des choses, on pourrait vraiment caricaturer, dire oh, c'est ridicule, tous ces hommes en robe, mais qu'est-ce qu'ils font, etc. Je crois que ce qu'il faut, c'est essayer de voir l'essentiel, le message qu'il y a derrière, les choses positives. Et il y a ici des gens qui pensent au bien commun, qui pensent à l'évangile, qui ont envie que l'évangile gagne le monde et qui travaillent à leur manière, avec leurs défauts, leurs qualités. Et c'est ça qui est intéressant.
Au-delà de tout ça, il y a un sens.
Je crois que quand on rencontre une personne, quelle qu'elle soit, ça peut être par exemple un pèlerin, place Saint-Pierre, qui vient à l'audience, ça peut être un cardinal, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Moi j'aime bien, par exemple, le pèlerin, pourquoi est-ce qu'il vient là? De même, le catholique allemand ou américain qui va venir voir le pape, qui a fait des kilomètres en bus pour le voir, bon, pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il en attend? Ça, je trouve ça toujours intéressant. En fin de compte, les gens ont toujours quelque chose à nous dire, mais bon, ça, c'est l'intérêt de ce métier.
Vous avez écrit un livre, Le pape incompris. Incompris pour qui? Incompris pourquoi?
Incompris beaucoup par les Français, me semble-t-il. C'est pas nouveau, parce que si on est un petit peu lucide sur notre propre mémoire, Jean-Paul II a été très longtemps incompris par les Français. Alors maintenant, il l'encense, c'était un pape formidable, d'accord, mais au début, il faut quand même se souvenir d'où on vient. Benoît XVI, il est incompris parce que je crois qu'il n'entre pas dans le système médiatique d'aujourd'hui. Et c'est ça qui m'a intéressé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être pape, c'est-à-dire un rôle, encore plus qu'un président de la République, hein, vraiment un rôle médiatique dans le monde d'aujourd'hui extrêmement important, en refusant les codes, les clés de ce système médiatique? C'est le pari de Benoît XVI qui n'a pas voulu changer. Je crois que c'est quelque chose qu'il aurait dit au conclave, aux cardinaux, quand les cardinaux l'ont élu. Il leur aurait dit « moi, je ne changerai pas ». Et effectivement, il n'a pas voulu changer sa manière de faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut se passer de ces codes et de tout ce système médiatique et quand même essayer de faire passer un message? Et c'est ça, finalement, qui est un peu compliqué avec Benoît XVI. De ça, s'en est un certain nombre d'incompréhensions entre lui et l'opinion publique.
Quand on lit vos articles, quand on lit votre blog sur le journal La Croix, on voit bien que c'est un de vos objectifs, d'essayer toujours de chercher à comprendre.
Oui, c'est quelquefois je rigole, je me dis que je suis une décodeuse de pape. C'est pas très beau comme nom, mais c'est un peu ça. Il y a peut-être un problème sur lequel l'Église devrait réfléchir, notamment l'Église qui est à Rome, c'est-à-dire qu'elle parle dans un langage codé que plus personne ne comprend. Quand on dit excommunication, qui comprend? Quand vous dites même dans la rue à des Français un archevêque, est-ce qu'un Français c'est la différence entre un archevêque, entre un évêque, entre un cardinal? À la limite, le curé il sait encore, ça reste un peu une image encore très proche, très populaire. Donc il y a beaucoup de choses, d'éléments que l'Église ici emploie dans son langage et qui sont incompréhensibles par le commun des mortels. Et ça, c'est compliqué parce qu'on peut dire oui, mais c'est finalement aux prêtres, aux évêques, dans les diocèses, de faire comprendre, de faire passer le message. Ça, c'était vrai autrefois. Parce que le message du pape, il arrive chez vous par la radio, Radio Vatican ou d'autres, ou par les journaux, comme ça, brut de décoffrage. Il n'y a pas un évêque derrière vous qui va vous expliquer ce que c'est que le motu proprio. Donc ça, c'est un problème sur lequel, me semble-t-il, le Vatican et l'Église qui est à Rome devraient réfléchir. Il y a aussi, je crois, le fait que le pape, par définition, parce qu'il est porteur du message de l'Évangile, est quand même en contradiction avec nos valeurs, les valeurs de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Vous prenez l'encyclique qui vient de sortir sur l'économie, c'est vrai qu'il y a quand même là-dedans des choses qui vont complètement à l'opposé de tout ce qu'on prône, notamment le profit, l'efficacité, et que l'encyclique repose le problème... Qu'est-ce qu'on veut faire de l'homme aujourd'hui ? Le problème, ce n'est pas de savoir si les marchés financiers vont bien. Le problème, c'est de savoir si l'homme y va bien. C'est là où il y a peut-être effectivement une contradiction et des choses qu'on ne veut pas entendre.
Au sujet de la transmission de ce que l'Église a à dire au monde, est-ce que la femme n'a pas un rôle spécifique à jouer dans ce rôle de transmission ?
En tout cas, c'est ce que Benoît XVI avait dit une fois à une audience. Il avait rappelé une belle figure de femme dans la Bible, qui est la mère de Marie, Anne, et en disant qu'il y a dans les femmes un rôle de transmission et d'enseignement. C'est un peu à la fois un rôle traditionnel, si on pense au rôle des femmes dans le catéchisme et dans la transmission au sein de la famille, et puis qui pourrait peut-être être élargi, explication par des femmes, etc. Honnêtement, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien reconnaître que, là encore, surtout ici au Vatican à Rome, le rôle de la femme dans l'Église est quasi équivalent de zéro. Alors que, et c'est là à mon avis un paradoxe qui est quand même un peu surprenant, tout le monde vous dit ici « Ah, mais il faudrait que la femme ait plus d'importance ». Tout le monde, y compris le pape, qui l'a beaucoup dit. Mais même aussi le cardinal Berton, le secrétaire d'État, qui s'y était engagé. Enfin, tout le monde vous dit, il faudrait plus de femmes. On n'a pas trouvé la solution. On se heurte au problème du prêtre, parce qu'aujourd'hui, au Vatican, pour avoir une responsabilité, il faut être prêtre, voire même monseigneur. Donc, effectivement, par définition, dans l'Église catholique, une femme ne peut pas être prêtre. Mais moi, je suis persuadée que ce n'est pas si compliqué que ça. On confond tout. Et du coup, cette institution centrale ne fait aucune place à l'altérité. Ce qui est quand même totalement contradictoire avec tout le message et de l'Évangile et le message du magistère qui n'arrête pas de nous parler de l'altérité. Ici, il n'y a aucune altérité.
Un titre d'un de vos blogs, c'est « Comment est-ce que le pape parle ?» Et moi, je vous pose comme question, Isabelle de Golemin, comment est-ce que le pape vous a parlé à vous ?
Alors, il ne m'a pas parlé. C'est-à-dire que ce n'est pas un pape qui parle aux journalistes. D'abord, il n'aime pas tellement ça. Honnêtement, je crois qu'il faut reconnaître. Donc il ne m'a pas parlé à moi spécialement. Par contre, moi, c'est vrai que c'était mon boulot ici, c'était de lire tout ce qu'il produisait, tout ce qu'il disait. Et là, il m'a parlé. Mais il m'a parlé comme il parle à tout le monde. Et je crois que c'est ça l'effort que tout le monde doit faire avec ce pape. C'est vraiment aller au texte. Parce que vraiment, les textes, ils sont drôlement intéressants. Vous avez notamment les textes des grandes homélies, c'est-à-dire les messes de Pâques, les messes de minuit, les rameaux, les textes des audiences. Tous les mercredis, le pape, il fait ce qu'on appelle de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il vous parle des pères de l'Église, il vous parle de l'histoire de l'Église, il vous parle de Paul et de manière toujours très, très intéressante. Il y a aussi ses grands discours. Moi, j'ai toujours été intéressée. Pas toujours d'accord, mais je trouve que c'est une pensée qui ne laisse pas indifférente, qui pousse toujours à aller plus loin. Par exemple, je prends un exemple tout récent. Vous avez dans l'encyclique économique tout un passage sur la vie. Il essaye de mettre en cohérence le message qu'on peut avoir sur l'aspect social et le message qu'on peut avoir sur l'homme. Et alors ça peut gêner parce que bon, on est bien d'accord avec tout ce qu'il va dire sur les pauvres, puis bon, sur la vie, sur la sexualité, c'est plus gênant. On se dit mais quel rapport ? Je crois que c'est intéressant parce qu'en fait il nous pousse à une certaine cohérence. Il pointe le doigt sur un certain nombre de contradictions et à partir de ces contradictions, il nous oblige à aller plus loin.
De Paris, comment est-ce que vous allez maintenant voir les nouvelles de Rome ?
Je vais essayer de mettre peut-être plus en valeur tout ce qui est international, parce que je trouve qu'à Rome, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on est confronté à toutes les églises. Rome, c'est un endroit où toutes les églises convergent et ensuite repartent. C'est un endroit où il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup d'universités, il y a aussi beaucoup de congrégations religieuses qui reçoivent des gens, qui accueillent et qui viennent ici avec beaucoup d'informations du monde entier. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à Rome, c'est cette espèce de mélange et finalement de caisse de résonance de l'Église universelle, mais vraiment universelle au sens de l'Église du monde entier. Il ne faudrait pas passer à côté, c'est-à-dire qu'il y a le pape, il y a la curie, mais il y a toute cette Église qui vient depuis 2000 ans à Rome, sur la tombe de Pierre, et dire qui elle est.
Quand vous allez regarder vos 4 ans à Rome, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous réchauffe le cœur quand vous y pensez?
Je crois que moi, ce qui m'a aidé, c'est sans doute de temps en temps, quand on est un peu découragé, quand on se dit mais vraiment, cette église, où est-ce qu'elle va, etc., c'est d'aller aux audiences. Moi, j'aime beaucoup aller aux audiences le mercredi. Alors, on peut dire c'est une kermesse, c'est une foire. En fait, non. C'est un certain nombre de groupes de pèlerins. Vraiment complètement différent. Vous avez des gens de tous les pays, vous avez un groupe d'Antillais, vous avez un groupe qui vient d'Amérique latine. Alors, ils sont avec leurs t-shirts, leurs foulards, etc. Ils sont super contents de voir le pape. Il y a des gens qui viennent du fin fond des Abruzzes ou des Pouilles pour parler des Italiens. De voir tous ces gens-là, je me dis à chaque fois, tiens, c'est ça l'Église en fait. C'est tous ces gens qui viennent ici. À mon avis, le grand enjeu pour l'Église dans l'avenir, c'est de gérer cette diversité. Elle est énorme. Comment rendre cohérente cette communion avec la diversité? Ça demande sans doute à la fois beaucoup de tolérance de chacun et puis un vrai travail sur nous-mêmes. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Voilà, l'Église, c'est la communion de gens qui sont d'une diversité extrême.